Bonjour à tous, ici Emmanuel pour Inactuel, votre revue de presse Inactuel. Cette semaine fut une semaine de scandales et de nouvelles tristes que je vais vous énumérer avec joie. D'abord, je voudrais vous parler de la météo et des impostures journalistiques. On nous annonce depuis maintenant plus de 10 ans le réchauffement climatique et il est même devenu un credo politique. Pourtant, il fait tellement froid que j'ai failli ne pas pouvoir faire cette chronique et que la moindre expédition à Simpli devient une expédition au Groenland. On a passé l'hiver entre plan neige et Eurostar bloqué. Et épuisé par ce chaud et froid, je crie donc à la calomnie et au mensonge et exige ce réchauffement climatique dont on nous parlait tant. Le conseil du ministre du Népal s'est délocalisé à 5000 mètres d'altitude pour alerter l'opinion sur le réchauffement. Les ministres français, eux, passent leur hiver à Courchevel. Nous sommes victimes d'un complot, chers amis. Je propose qu'on délocalise provisoirement Transistor aux Maldives pour lutter contre cette campagne de désinformation. Nous acceptons bien sûr l'échec. Autre nouvelle capitale qui nous a tous secoués ces dernières semaines, la mort de Supernanny, car Supernanny, on vous aimait et regarde-moi bien dans les yeux quand je te parle. Car apprendre à éduquer ses enfants, c'était le meilleur de la télé-réalité. Grâce à Supernanny, on sait qu'une ratatouille n'est pas une punition, non madame. Mieux que dresser votre chien, décorer votre jacuzzi, trouver l'âme sœur en Papouasie, devenir bonne sœur au Kurdistan. Il ne manque plus qu'une émission pour trouver son point G d'ailleurs. Je propose ce nouveau concept à M6 qui a l'air en mal d'inspiration en ce moment. Évitons Super Gaggy, Orgasmi, Origami, tous les trucs en vie, ce serait de très mauvais coup. Dans la série des drames qui font pleurer dans les chaumières, la séparation de Brad et Angelina. On va devoir leur expliquer que non, on ne peut pas ramener à l'orphelinat des bébés adoptés à l'étranger. Après les expositions ventes des ex-femmes de milliardaires qui vendent leurs bijoux pour financer leur divorce, les soldes de bébés chinois des stars hollywoodiennes. Autre drame, ça fait presque un an que le journal du Vatican a proclamé une ode au lave-linge qui n'a jamais été entendue. Aujourd'hui, je lui rends justice et je fais du féminisme pontifical. Le lave-linge libérateur de la femme moderne, le lave-linge ami des femmes. Pas le lave-vaisselle, sale copieur, traître, ex-communié. Et pendant ce temps-là, l'État retire ses subventions à un certain nombre de centres de planning familial. Mais on s'en fiche, n'est-ce pas, parce que le lave-linge est bien plus déterminant pour l'émancipation des femmes que l'IVG ou la pilule. Vous ne regarderez plus jamais la laverie comme avant. Dilemme du mois. Le président sud-africain Jacob Zuma se marie pour la 5e fois. Ça, c'est du romantisme. Quand il aime, il épouse. Oui, mais problème. Laquelle est menée dans la tribune officielle lors du Mondial 2010. Robert Solé dans Le Monde parie que Zuma réussira à atteindre une équipe présidentielle complète d'ici le début de la compétition à raison d'un mariage par mois. Ce serait bien que ça inspire le président français. La polygamie est une idée séduisante. Sarkozy devrait se marier tous les ans s'il voulait vraiment nous divertir de cette ennuyeuse crise et pas jouer à citer Marc Bloch. Le sacre de Reims et la fête de la Fédération. Pas étonnant que le moral des ménages ait atteint son plus bas historique en décembre. Un petit peu de surprise, de variation, que diable. Il devrait s'inspirer de Christine Lagarde qui a changé 3 fois d'avis sur l'affaire Proglio. J'en viens donc à mes propositions au gouvernement, parce que je trouve que le gouvernement coupe les cheveux en 4. Par exemple, ces fameuses réformes du service public. Pourquoi ne pas simplifier encore plus? C'est quand même plus facile de s'adresser à une seule personne qui fasse plombier, garagiste et cancérologue. Pourquoi tant d'éparpillements inutiles pour les services de santé notamment? On regroupe les services sur les territoires. Pourquoi pas au sein d'une même personne? Qui n'a pas rêvé d'un dentiste aide-soignant? Hop, je vous change vos draps et pendant ce temps-là, je vous arrange une dent ni vue ni connue. D'ailleurs, il aurait pu y penser parce qu'avec l'ENA, l'État parvient à créer des comédiens, clowns, acrobates, prestigitateurs, carchériseurs des cités à mi-temps. Donc je disais, simplifions et au lieu de tergiverser pendant 50 ans sur le port de la burqa, parce que c'est encore un débat ultra fatigant, rendons la burqa obligatoire pour les femmes et les hommes. Pas de discrimination. Bon, pour les véloves, ce n'est peut-être pas génial. Au moins, ça nous tiendra compagnie pour... Ça nous tiendra chaud pendant l'hiver et puis ça fera moins de lessive, encore une victoire féministe. Pas de triche et de trous à la bouche pour pouvoir fumer, déjà que la cigarette est acceptée dans la rue, grande tolérance, il ne manquerait plus qu'on puisse fumer en burqa. Scandalisons-nous aussi avec Copé qui regrette le temps des débats houleux de l'affaire Dreyfus. C'est vrai que c'était bien quand on pouvait être xénophobe en paix, ils finiront bien par en trouver un autre de Dreyfus, je ne m'inquiète pas, un homme en burqa, tiens. Copé parle aussi des fissures de la société, les Français ne s'écoutent plus et ne se parlent plus. C'est ça, c'est vrai qu'avant le 21e siècle, les fractures sociales n'ont jamais existé, c'est une invention moderne. D'ailleurs, tout est une invention moderne. L'histoire commence avec la Sarco-France et Twitter, encore un truc qui simplifie, c'est pas mal pour les manuels d'histoire, on pourrait proposer ça pour les programmes de lycée. Ah oui, c'est vrai, l'histoire géo disparaît des programmes du lycée. Non, j'arrête, c'est un débat d'intello et les intellos avec leurs lampes et leurs statistiques savaient presque autant de réchauffement climatique que les obèses. Oui, parce qu'une étude très sérieuse montre que les obèses produisent du réchauffement climatique. Enfin, tout ça pour dire que Copé est très en forme en ce moment. C'est Proglio le stalinisme, dit-il. Tout à fait, mettons une burqa à Proglio, faisons-en un martyr, puis mettons-le dans la laverie lyonnaise pour le libérer de ses oppresseurs. Alors tout de suite, je vous fais écouter Waiter Waiter de Evergreen et ensuite, on écoute Alice pour Mythologie qui va nous parler des bobos. Oh, waiter, we're ready to... Waiter, dear,
been 10 days on the job.
Chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Mythologie qui a pour ambition de décrypter les mythes du monde contemporain. Cette semaine, nous allons nous attarder sur le mythe des bobos, cette nouvelle classe sociale dont nous faisons tous plus ou moins partie et qui agit à la fois comme une attraction et un repoussoir. Historiquement, le bourgeois bohème nous vient du bourgeois bohémien anglais. Il apparaît pour la première fois dans un livre de David Brooks intitulé « Bobos in Paradise » paru en 2000. David Brooks, qui est un journaliste au New York Times, entendait regrouper sous ce terme l'évolution et la transformation du groupe des Yuppies des années 80, qui désignait les Young Urban Professionals, c'est-à-dire les jeunes cadres et ingénieurs de haut niveau évoluant dans les milieux de la haute finance des grandes villes occidentales. Brooks voyait dans les bobos une nouvelle classe supérieure qui emprunte à la fois à l'idéalisme bohème des années 60 et des valeurs morales bourgeoises qu'il trouve dans l'écologisme et le citoyennisme. Ce nouveau modèle si éloigné de la figure de l'austère bourgeois est directement issu des habits de la côte ouest américaine. Jack Ellul, dans son livre « La métamorphose du bourgeois », note que ce nouveau modèle bourgeois cadre avec l'évolution libérale et néo-capitaliste de la société sous des apparences de contre-culture. Cependant, aujourd'hui, le bobo commence à s'effacer du discours anglo-saxon dans lequel il est remplacé par le terme « hipster ». Ce terme désignait, dans les années 40, les amateurs de jazz aux mœurs décadentes empruntées aux milieux artistiques. Il est aujourd'hui récupéré par les anglo-saxons pour désigner les néo-bobos. Cependant, si le terme de bobo disparaît progressivement du discours anglo-saxon, ce terme connaît une nouvelle vie en Europe occidentale et en France en particulier. Le bobo français n'a cependant plus grand-chose à voir avec le hipster anglo-saxon. Ce terme a été complètement réinventé en France. Chacun de nous, sinon d'être soi-même un bobo, en connaît au moins un. On voit à quoi ressemble le bobo, ses caractéristiques ne sont pas très évidentes cependant. D'après le sociologue français Pierre Merle, le terme « bourgeois bohème » serait apparu pour la première fois en France dans un courrier international du 15 juin 2000. Mais on le trouve déjà bien plus tôt chez Maupassant, qui écrit en 1885 dans « Belle Amie ». Ce fut elle alors qui lui serra la main très fort, très longtemps, et il se sentit remué par cet aveu silencieux, repris d'un brusque béguin pour cette bourgeoise bohème et bonne enfant qu'il aimait peut-être vraiment. Le terme est assez flou, mais il désigne généralement des personnes aisées, bien pensantes, tournées vers la gauche écologiste. Le bobo est avant tout parisien et parisianiste. À Paris, les bobos résident dans les arrondissements aisés du centre, mais le phénomène tend à s'étendre de plus en plus vers les quartiers populaires de l'Est, ce qui contribue entre autres à faire augmenter considérablement le prix de l'immobilier dans ces quartiers. On les trouve aussi dans certaines grandes villes de France, dans le quartier du Panier à Marseille, celui de Vazem à Lille ou de la Croix-Rousse lyonnaise. Renaud, dans sa chanson « Les bobos », relève plusieurs habitudes et caractéristiques du bobo type. Selon lui, le bobo écoute Vincent Delerme et il lit Houellebecq. Les bobos vivent comme des artistes dans des ateliers ou des lofts, ils ont plein d'enfants, des métiers bien payés, font leurs courses dans des marchés bio, ils regardent Arte, lisent Télérama, ils aiment la cuisine japonaise et les films coréens, ils s'habillent chez Maj et Ben Simon, ils votent écolo et se déplacent en vélo. On retrouve dans cette énumération trois caractéristiques majeures du bobo. Bien sûr, le bobo est d'abord un bourgeois, puisque les valeurs travail et famille rappellent largement la bourgeoisie Second Empire. Les valeurs morales sont présentes elles aussi, l'ancienne charité chrétienne se traduit par la bien-pensance écolo et socialiste. Mais le bourgeois est aussi bohème, son mode de vie s'apparente à celui des artistes sans le sou. On comprend l'hypocrisie de ce système d'un mode de vie pseudo-précaire. Enfin, comme autrefois la bourgeoisie aspirait à l'accession à la noblesse, le nouvel idéal du bobo se tourne vers les milieux intellectuels. Et c'est peut-être là la particularité toute française du bobo, il se prend pour un intello. Toute l'hypocrisie du boboïsme se trouve dans cette dernière caractéristique, celle de sans cesse vouloir se prendre pour ce qu'on n'est pas. Le bobo est un modèle caméléon qui se complaît dans son hybridité. Cette hybridité serait, selon le bobo, une marque supérieure d'originalité et d'intelligence qui se refuse à tout carcan et à tout lieu commun. Ce que le bobo ne réalise pas, c'est qu'il arrive trop tard, l'avant-garde est depuis longtemps dépassée, et plutôt que de s'extraire de sa classe, le bobo s'y enferre avec allégresse. Et maintenant, vous pouvez jouer avec Transistor et gagner deux albums du groupe de la semaine, du groupe Métropole qu'on a passé il y a pas très longtemps. La question la voici. Qui est l'invité de l'émission 20 minutes d'histoire dans la catégorie culture ? Pour répondre à cette question, une seule adresse, transistor@hotmail.fr.